Queer Côté Geek avec Philippe Aubert Côté.
Bon, Philippe Aubert, je suis désolé. On s'amuse de temps en temps à faire des intros comme ça.
Je suis surpris.
Alors, je vous annonce, tout le monde, c'est moi qui monte ces trucs-là, je sais. Hey, on va parler de Frankenstein aujourd'hui, qui est une icône queer toujours actuelle.
Oui, Frankenstein, qui est un incontournable dans l'horreur. Stephen King le considère comme l'un des quatre archétypes fondamentaux de l'horreur, avec le vampire, le loup-garou et le fantôme. Mais côté queer, il est intéressant aussi.
Ah, pourquoi? Pourquoi en parler d'abord en janvier aussi?
Ben, pourquoi en parler en janvier? D'abord, ben, pourquoi en parler? C'est pour deux raisons. D'abord, le 1er février prochain, ça va marquer le 175e anniversaire du décès de Mary Shelley, donc l'écrivaine à qui on doit le roman qui est derrière le mythe de Frankenstein. Et pourquoi en parler dans le cadre de cette émission? C'est parce que le monstre de Frankenstein est aussi une icône queer. C'est un mythe qui a été créé par une auteure queer dans un milieu qui était très queer, on va y revenir. C'est un mythe qui doit aussi son visage emblématique, le monstre de Frankenstein avec la tête carrée, les électrodes. Ça, on doit ça à un réalisateur qui était queer.
Ah.
Et aussi, c'est un mythe dont le propos fondamental sur la société est toujours d'actualité, encore plus pour les populations queer et marginales.
Bon, on va parler de Frankenstein, l'homme qui crée un autre homme.
Ouais, un petit rappel d'abord. Donc, c'est quoi Frankenstein? Donc, on peut parler d'un mythe aujourd'hui, mais ça vient d'un roman écrit par Mary Shelley et publié en 1818. Et c'est l'histoire d'un jeune savant qui assemble le corps d'un homme à partir de différents morceaux de cadavres auxquels il donne vie par des moyens scientifiques. Mais il va abandonner sa création puis elle va venir lui réclamer des comptes. Une petite précision, Frankenstein, c'est le nom du docteur qui crée le monstre, le docteur Victor Frankenstein. Mais dans la culture populaire, on confond les deux. Frankenstein désigne des fois autant le monstre que le créateur, un peu. C'est un roman, le roman de Mary Shelley est intéressant parce qu'il possède plusieurs niveaux qui le rendent vraiment marquant. C'est un roman d'horreur d'abord, c'est la création d'un monstre meurtrier qui se révolte contre son créateur. C'est un des premiers romans de science-fiction qu'on recense, parce qu'au lieu d'utiliser la magie pour animer la créature, Mary Shelley imagine un moyen scientifique, qui était une extrapolation de la science de l'époque, où on s'est rendu compte que l'électricité pouvait activer les muscles. Mais c'est avant tout un roman social qui soulève des questions philosophiques, notamment autour de l'aliénation de l'individu, parce que le monstre de Frankenstein, c'est un individu à qui une société reflète son statut d'être humain, refuse son statut d'être humain. C'était à l'époque des Lumières, à l'époque de Frankenstein, c'était très philosophe, il y avait le progrès, tout allait être pour le bien, mais Mary Shelley nous souligne que dans cette belle société-là, il y a quand même des laissés pour compte et le monstre est confronté à ce rejet.
Wow, donc Frankenstein aurait des origines non seulement queer, mais on dirait polyamoureuses?
Oui, parce que la genèse du roman, c'est un roman en soi. Pour mettre dans le contexte, Mary Shelley, née Godwin, est née en 1797. C'est la fille d'un philosophe progressiste et d'une écrivaine féministe. 1797, là, c'est 38 ans après la chute de la Nouvelle-France, pensez-y. Là. Donc, c'était des parents en avance sur leur époque. En 1814, elle rencontre le poète Percy Shelley, qui va lui donner son nom final plus tard, avec qui elle s'enfuit en Europe. Et c'est en 1816 que les choses intéressantes se passent. Mary et Percy, qui sont non mariés mais en couple, ce qui était déjà scandaleux à l'époque, mais séjournent en Suisse sur les rives du lac Léman dans une luxueuse villa qui est occupée par Lord Byron, qui est un des plus grands poètes de cette époque-là et qui est un ami du couple. Et il y a d'autres invités aussi. Le médecin secrétaire de Lord Byron, le docteur Polidori, est là, ainsi que Claire Carmon, qui est la demi-sœur de Mary. Tous ces petits gens-là se retrouvent au bord du lac Léman et il s'emmerde, c'est un été pluvieux, c'est sombre, il n'y a rien à faire. Il se distrait en lisant des histoires d'épouvante au coin du feu. Et là, Lord Byron a une idée, dit « Hey, ça veut quoi, c'est le fun des histoires d'épouvante? On se lance un défi, on en écrit tous une. » Ils ont tous essayé et c'est Mary Shelley, la future Mary Shelley, donc, qui va avoir l'idée la plus géniale. Elle va faire un rêve inspiré des discussions philosophiques de son mari et de Lord Byron où elle voit un jeune médecin qui assemble un autre homme et lui donne la vie.
Ouh!
Et là, elle va commencer à faire une petite histoire qu'elle va transformer en roman qu'elle va publier en 1818 de façon anonyme, parce qu'évidemment, une femme à l'époque publiait un livre. Ouh, c'était dangereux. Hein?
Oui. Donc, et c'est né qu'en 1831, donc, qu'il va y avoir une réédition avec son nom, c'est
ça? Avec son nom, qu'on va savoir que c'est elle qui est derrière le mythe de Frankenstein, qui est déjà très mythique à l'époque.
Bon, alors là, on parle depuis tantôt, Frankenstein naît, on dit qu'il est né dans un contexte queer.
Oui, parce que tous ces gens-là que je vous ai nommés là, sont très queer. Percy Shelley, donc le futur mari de Mary, c'est un bisexuel qui a déjà fait un premier mariage de façade.
Ah bon?
Pour cacher son homosexualité, le couple accueillait des hommes dans leur lit jusqu'à ce que ça barde et que lui décide de fuir l'Angleterre avec la jeune Mary. Mm-hmm. Il avait peur qu'on trouve des preuves de ses amours masculines. Puis là, c'était punissable par la corde à l'époque. Hein. Lord Byron, c'est un homosexuel très sulfureux qui a fait scandale dans les écoles où il étudiait, puis dont les écrits passionnés témoignent de son amour pour plusieurs hommes. Le docteur Polidori est dans une relation toxique avec Lord Byron. Il va même se venger quelques années plus tard en écrivant une histoire de vampire qui va camper le cliché du vampire aristocratique que Bram Stoker va réutiliser pour Dracula après. Mmh. Mary Shelley elle-même, elle a évoqué des expériences avec des femmes, notamment après le décès de son mari qui est mort noyé quand il faisait de la voile avec son amant. Elle s'est consolée avec la veuve de l'amant en question. Il était probablement dans une relation polyamoureuse. C'est très queer, tout ce monde-là.
Ouais.
Alors, c'est étonnant que Mary Shelley ait écrit un roman qui, justement, critiquait le fait que la société de l'époque avait tendance à marginaliser les gens. Donc, c'est pas très étonnant quand on regarde le contexte.
Ouais. Alors, on va aller au ciné maintenant parce que le mythe trouve son virage contemporain grâce à un réalisateur qui, lui aussi, est queer.
Exactement, parce que Mary Shelley a écrit le roman en 1816, mais l'image moderne qu'on a de Frankenstein, là, la tête carrée, les électrodes, puis le cliché du savant qui anime sa créature avec la foudre, ça, on doit ça à James Whale, un cinéaste d'origine britannique, qui va faire un film de Frankenstein en 1931. Donc, il va faire deux films, le Frankenstein en 1931 et une suite, La fiancée de Frankenstein. Pour le premier, Frankenstein 1931, il va confier le rôle du monstre à Boris Karloff, un acteur britannique qui a passé par le Canada, qui n'avait pas eu de grand rôle avant d'aboutir aux États-Unis. Et à 42 ans, il n'était pas connu, il devait même être routier pour arrondir ses fins de mois. James Whale le repère puis lui propose « Veux-tu faire mon monstre ou ça? » Et c'est Boris Karloff qui va devenir l'incarnation cliché typique de Frankenstein qu'on connaît aujourd'hui. La tête carrée avec les électrodes dans le cou. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que James Whale, comme tu l'as dit, était queer. Et il a voulu apporter un regard différent de ce qu'on lui demandait faire pour Frankenstein. Parce qu'on croit souvent que l'histoire de Frankenstein, c'est l'histoire d'un savant qui crée un monstre, qui bafoue la loi divine, puis qui se fait punir par le bon Dieu. James Whale dit non, c'est pas ça que je vais faire. Il va décider de présenter le monstre comme une victime.
Ah.
Lui-même est homosexuel, c'était très difficile à vivre à l'époque, et il s'est dit non, le monstre va être une victime de la société comme les personnes queer de l'époque. Il décide de faire du Dr. Frankenstein le monstre, de faire les villageois qui poursuivent la créature les monstres, et il fait du monstre une victime innocente, ce qui était assez rebelle à l'époque.
Okay.
Donc ça, c'était pour le premier film. Le film de 1931 connaît un gros succès. Donc, en 1935, on redemande à James Whale de faire une suite.
Et là, on lui donne carte blanche. Les sequels, hein, les fameuses suites.
Les fameuses sequels, oui. Hein, ça remonte à... Ça date pas d'hier. Hein.
1935, donc.
1935, il fait La fiancée de Frankenstein. Il a carte blanche et là, il se fait plaisir.
Ah oui?
Parce qu'il faut... Quand on regarde le film en se mettant les bonnes lunettes, c'est plein de jokes queer et gays qui sont cachés à l'intérieur du film. Dans La fiancée de Frankenstein, l'intrigue nous montre le docteur Frankenstein qui se fait solliciter par un autre docteur, le docteur Pretorius, qui veut l'inciter à créer une fiancée pour le monstre qui est apparu dans le premier film. Mais là, c'est que le docteur Pretorius est joué par Ernest Tessiger, qui était un acteur ouvertement gay à l'époque. Il tricotait entre les scènes.
Oui, oui.
Il était très affirmé côté queer, puis il aimait ça choquer les gens. Le docteur Pretorius, c'est une sorte de grande folle, pour reprendre l'expression de Whale. Oui. Il surjoue, il y a des tics, il y a des manières, tout ça. C'est un personnage queer de cabaret, mais c'est tellement subtil que ça a échappé à la censure. Et là, il n'arrête pas de tout faire en sorte, le docteur Pretorius, pour détourner le docteur Frankenstein de sa fiancée. Et là, on se retrouve avec l'histoire de, au lieu d'avoir un homme puis une femme qui crée un autre homme, on a deux hommes qui créent la femme.
Ah!
C'est très subversif pour l'époque. Et la fameuse fiancée, qui est jouée par Elsa Lanchester, une actrice avant-gardiste qui était très proche des milieux LGBT, qu'on a revu dans les films de Disney comme Mary Poppins après, là. Donc, elle joue le rôle de la fiancée, puis vous irez voir les photos sur le web, là. Elle a une perruque, mais extravagante, qui est devenue iconique, qui est un clin d'œil aux perruques qu'on comportait dans les shows de travestis drag queen. Hein. Ça figurait très bien dans la garde-robe de Madou Lamotte, là, cette perruque-là.
Ah bon? Ben, parlons maintenant des variations queer de cette histoire.
Oui, parce que La fiancée de Frankenstein, ça a marqué le début d'un tas de variations sur l'histoire de Mary Shelley. Écoute, il y en a tellement de variations en films, livres, BD, dessins animés, tout ça, que c'est impossible de toutes les couvrir. Là. On peut faire des ouvrages là-dessus. Moi, j'ai fait une petite recherche, puis on trouve énormément de livres érotiques dans le milieu gay où le docteur Frankenstein, tu sais, décide de se créer un amant bien membré. Ça, ça revient souvent, ce cliché-là, dans les livres érotiques gays.
Ça ne m'étonne pas.
Ça ne m'étonne pas. Et imagine hein, que, évidemment, sur les couvertures des livres en question, pour animer la créature, hein, il lui envoie la faute sur le paratonnerre en bas de la ceinture, évidemment.
Oui, oui.
Mais ça, c'est le côté comique. Mais il y a eu des films plus sérieux. Il y en a deux. Que je retiens, il y a Andy Warhol, un artiste bien connu, tu sais, des milieux queer, tout ça, qui a mis son nom sur un film de Frankenstein qui s'appelle « Cher pour Frankenstein » en 73. Si vous écoutez ce film-là, prenez beaucoup de vin parce que c'est une sainte horreur à regarder, là, c'est très mauvais, là. Mm-hmm. Mais tout ça, c'est un accident de train au ralenti, comme disent certains. Plus intéressant, le Rocky Horror Picture Show, qui est un film qui se passe dans un univers très Frankenstein, tout ça, où Tim Curry interprète le docteur Frankenfurter, tu sais, qui est une sorte de trans extraterrestre qui vient, on ne sait pas trop, mais bon, on s'en fout, tu sais, c'est queer tout ce milieu-là. Et lui, il se crée un monstre très sexy appelé Rocky. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que le film de Rocky Horror Picture Show véhicule le fait que la monstruosité, les monstres, c'est juste des excentriques.
Ouais.
Et ils ne sont monstrueux que parce que la société les juge comme ça. Mais eux sont bien fiers de ce qu'ils sont.
En conclusion?
Je vais surfer sur cette idée-là de l'excentricité comme une anormalité. Parce que pourquoi, je reviens à l'affirmation, pourquoi Frankenstein est une icône queer? Si on vient du début, le roman original de Mary Shelley soulignait les contradictions de l'époque des Lumières en nous montrant que qu'est-ce qui fait que son monstre est un monstre? C'est parce que la société le rejette. T'sais? James Whale reprend la même idée. Il pose la question, qu'est-ce qui fait que le monstre de Frankenstein est vraiment le monstre? C'est la société qui le décide. Bien, on peut faire un parallèle avec la situation actuelle des personnes LGBT. En ce moment, on a beaucoup de politiciens puis d'idéologues qui ciblent les communautés LGBT, queer et marginalisées, puis qui les identifient comme étant les monstres qui dérangent la société.
Ouais.
Plutôt que de se poser des questions sur leurs actes, leur propre philosophie et tout ça. Donc, encore aujourd'hui, la situation dénoncée dans Frankenstein et dans le film de Whale perdure un peu aujourd'hui. Donc, je serais très curieux de voir qu'est-ce que Mary Shelley aurait à dire sur la situation actuelle des personnes queer, LGBT, marginalisées aujourd'hui par rapport à son livre. Je suis sûr qu'elle aurait bien des choses à nous raconter.
Bien, écoute, on en apprend continuellement avec toi, Frankenstein. Frankenstein, donc, une icône queer. Il y en a beaucoup comme ça?
Oui.
Des icônes queer qu'on va voir dans les prochaines chroniques?
Il y en a plein, il y en a plein.
Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Philippe Aubert-Côté.
Merci.